où l'on reparle de l'ingérence de l'Azerbaïdjan en France et en Calédonie. Nous allons revenir sur les tentatives de déstabilisation de Bakou. L'année du serpent de bois commence ce soir à minuit. C'est la fête du Tet ou Nouvel An chinois à laquelle se prépare la communauté asiatique du territoire. La tenue unique pour les maternelles et les primaires en province sud, tout est prêt. Elles seront un peu moins chères, annonce la province. En Pologne, la commémoration des 80 ans de la libération d'Auschwitz. Plus d'un million de juifs y périrent pendant la Deuxième Guerre mondiale. En métropole, les deux jeunes qui ont poignardé Elias à mort pour lui voler son téléphone portable sont mis en examen et placés en détention. L'affaire suscite toujours beaucoup d'émotions. Et puis le sport, et le ministère des Sports à Paris publie la liste des sportifs de haut niveau. Une centaine de Calédoniens y figurent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Notez que dans le magazine Citoyen, à la fin de cette édition, nous parlerons lecture, alors que la nuit de la lecture sera relayée jeudi sur le territoire. Pourquoi lire et qu'apporte la fréquentation des livres? Ce sera le thème de notre magazine Citoyen auquel participeront Solange Payandi, la directrice de la bibliothèque Bernheim, l'auteur et éditeur Yannick Jean, mais aussi Élodie Lallenay, chef du service conservation et valorisation du patrimoine de la ville de Nouméa. Un magazine Citoyen à retrouver dès la fin de ce journal. L'Azerbaïdjan est une dictature islamiste sanguinaire qui massacre les chrétiens. C'est le rappel fait sur notre antenne par Bastien van der Dijk, spécialiste en géopolitique et directeur de cabinet de la présidente de la province sud. Il était notre invité ce matin, Elisabeth Noir, pour revenir sur les ingérences et les tentatives de déstabilisation de Bakou.
Et sur le même thème, de son côté, le député Nicolas Metzor vient de déposer une proposition de résolution européenne visant à condamner les ingérences de l'Azerbaïdjan. Il a obtenu dans cette démarche le soutien de l'intégralité de son groupe parlementaire. L'objectif, c'est de condamner fermement les ingérences répétées de l'Azerbaïdjan dans les affaires politiques de la Nouvelle-Calédonie et par extension de la France, ainsi qu'à appeler à des mesures renforcées pour protéger la souveraineté française. Cette proposition de résolution appelle les institutions européennes et françaises à condamner fermement les actions de déstabilisation menées par l'Azerbaïdjan, à renforcer les dispositifs de cybersécurité et de lutte contre la désinformation, à soutenir la résilience des territoires ultramarins face à ces ingérences et à encourager enfin une coopération internationale accrue pour détecter et contrer ces menaces. Ces prises de position font suite bien sûr à la réunion la semaine dernière à Nouméa du Congrès constitutif du Front international de décolonisation. C'est un groupe informel qui rassemble les représentants de plusieurs mouvements indépendantistes ultramarins. Ce front est un outil d'influence d'un pays étranger, souligne Bastien van den Dijk, qui était notre invité ce matin, et il ne sert que les intérêts de l'Azerbaïdjan. Cette réunion, pour rappel, se tenait au siège de l'Union calédonienne, et en ouverture des travaux, un responsable du groupe Initiative Bakou est intervenu en visioconférence, même si, souligne Bastien van den Dijk, les indépendantistes essaient de nier cette proximité.
Michael Forest qui nous disait le 30 août dernier que le groupe d'initiative de Bakou avait apporté un soutien logistique et de communication. Donc non, c'est, excusez-moi de le dire comme ça, mais ils font preuve d'une forme d'hypocrisie, ils mentent. Oui, effectivement, ils ont le soutien de l'Azerbaïdjan. Oui, ce front international de décolonisation est un outil de l'Azerbaïdjan. La preuve en est, le ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan a communiqué sur Twitter lorsque un certain nombre de responsables politiques français ont dénoncé ces agissements.
L'occasion de revenir sur ce fameux groupe d'initiative Bakou, dont on parle beaucoup en Calédonie depuis plusieurs mois et qui a pris la France pour cible.
Le groupe d'initiative de Bakou, il a été créé en juillet 2023. Il est monté en puissance dans les mois qui ont suivi. Et c'est un groupe de pression. C'est un groupe qui fait de l'influence, du lobbying au service des mouvements indépendantistes qui existent dans les territoires ultramarins. Ce groupe d'initiative de Bakou, c'est un outil pour l'Azerbaïdjan qui lui sert à créer des formes de déstabilisation, voire d'insurrection, dont on l'a vu le 13 mai, sur le territoire français pour gêner l'État parce que la France prend des positions contre les politiques de l'Azerbaïdjan, notamment au Haut-Karabakh et en Arménie. Il faut savoir, et c'est important de le noter, que l'Azerbaïdjan mène une épuration ethnique, massacre des chrétiens par centaines, oblige des dizaines de milliers de chrétiens à partir de chez eux au Haut-Karabakh. Et donc la France a, à de nombreuses reprises, critiqué cette politique intérieure azerbaïdjanaise et du coup l'Azerbaïdjan, en répercussion, a organisé un certain nombre d'actions.
Et l'on sait aujourd'hui que ce groupe d'initiative de Bakou a vraisemblablement joué un rôle dans les émeutes du 13 mai, notamment en apportant aux indépendantistes un soutien logistique et de communication.
Michael Forest nous a dit effectivement que le groupe d'initiative de Bakou a porté son soutien à la cause indépendantiste, et quand on sait quel est le positionnement de Michael Forest dans l'échiquier politique indépendantiste, on sait évidemment que ce soutien vient aux indépendantistes les plus radicaux. Par ailleurs, Viginum, qui est l'autorité de l'État qui vérifie, qui veille sur les ingérences étrangères sur le territoire national, a publié d'abord une note en mai 2024 et surtout un rapport au début du mois de décembre 2024 qui est très renseigné et qui explique comment l'Azerbaïdjan, à travers le groupe d'initiative de Bakou, a créé des opérations pour accroître la déstabilisation sur le territoire calédonien, notamment en partageant un grand nombre de fake news, de fausses informations qui ont permis, à un moment donné, de servir les intérêts de ceux qui ont mis le feu à la Nouvelle-Calédonie.
Alors, on le sait, ces derniers jours, plusieurs personnalités ont protesté contre l'ingérence de l'Azerbaïdjan en Nouvelle-Calédonie. C'est le cas notamment du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Outre-mer, ou encore du député européen François-Xavier Bellamy. Mais concrètement, quelles actions peuvent-elles être menées contre l'Azerbaïdjan ?
Maintenant, tout le monde a bien conscience de ce qui se passe. L'activisme de Sonia Bakès, de Nicolas Mesdorf à l'Assemblée et ailleurs a permis de faire prendre conscience aux gens des enjeux qu'il y avait. Derrière ça, après les paroles, il va falloir des actes. Je sais que Sonia Bakès et Nicolas Mesdorf rencontrent le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères dans les jours à venir. Il va falloir lui demander un certain nombre d'actes et je pense que dans ces actes, il y a effectivement à un moment donné le rappel de l'ambassadrice de France qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan. Je pense qu'il y a par ailleurs un certain nombre de mesures de rétorsion. On sait aujourd'hui que l'Agence française pour le développement envoie de l'argent en Azerbaïdjan. Je ne suis pas bien certain que les impôts des Français doivent servir un pays qui organise la déstabilisation sur le territoire national. Et puis, effectivement, il y a d'autres mesures à prendre. Je sais ici qu'on a une ambassadrice qui est très active, Madame Roger Lacan. Je sais que Jean-Baptiste Jean-Jean Villemer au Vanuatu est aussi très actif sur les réseaux sociaux pour dénoncer la désinformation. Et puis peut-être qu'il y a aussi d'autres entreprises à initier. Je pense potentiellement à des alliances diplomatiques avec les gens qui ne sont pas dépendants des hydrocarbures azerbaïdjanais, parce que la réalité derrière, c'est que l'Azerbaïdjan tient beaucoup de pays grâce à ses ressources, et puis peut-être aussi des actions un peu plus disruptives.
Et en Nouvelle-Calédonie, selon Bastien Van Den Dyck, il faut qu'il y ait une réelle prise de conscience de la réalité du régime de Bakou.
Est-ce qu'aujourd'hui, les Calédoniens, et particulièrement chez les indépendantistes, veulent avoir pour alliés des gens qui massacrent les chrétiens, qui les obligent à quitter leur maison, qui brûlent leur église, qui commettent des atrocités sur les femmes, sur les enfants. Voilà. Ayez juste en tête qu'aujourd'hui, l'allié principal, le financeur principal, l'appui logistique principal de l'Union calédonienne et de la CCAT, c'est une dictature islamique sanguinaire qui massacre des chrétiens. Je pense qu'une fois qu'ils auront pris conscience de ça, et j'espère qu'ils seront capables de prendre conscience de ça, il y aura peut-être une évolution dans les prises de position.
Une interview de Bastien Van Den Dyck, spécialiste de géopolitique et directeur de cabinet de la présidente de la province sud, que vous pouvez bien sûr retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et autre prise de position dans ce dossier, celle du député européen du Rassemblement national, André Rouget. Dans un communiqué, il dénonce avec force le rôle central joué par l'Azerbaïdjan dans la réunion du pseudo-congrès des dernières colonies françaises réunies à Nouméa. Et il s'interroge, nos services de renseignement n'avaient-ils rien vu venir et l'État n'a-t-il pas été en mesure d'empêcher cette manifestation? Il demande également quelles seront les mesures de rétorsion à l'égard de l'Azerbaïdjan.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 96% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pensent que la France doit prendre des sanctions économiques contre l'Azerbaïdjan. Ils ne sont que 4% à penser le contraire. Et puis voici notre question du jour. Les conditions sont-elles réunies selon vous pour une ouverture permanente de la RP1 à Saint-Louis au 1er février ? Si vous pensez que les conditions sont réunies, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La communauté asiatique fête ce soir le nouvel an chinois ou fête du Tet. La communauté vietnamienne organise une soirée dansante à l'amicale vietnamienne ce soir. À minuit, la danse de la licorne et l'explosion de 1000 pétards permettront de chasser les mauvais esprits. Quant à la communauté chinoise, ses membres se retrouveront dans un restaurant autour de plats traditionnels. En tout cas, toutes les traditions seront respectées pour ce nouvel an chinois, si l'on en croit ces témoignages recueillis dans le quartier asiatique de Nouméa.
Le réveillon, ben nous on fait un repas pour faire les offrandes aux ancêtres et après manger en famille. C'est le pâté de porc avec le gâteau de riz gluant, cuit pendant 9 heures.
Au niveau tenue, vêtements,
les tuniques, les robes vietnamiennes, la plupart du temps, les gens ils choisissent le rouge. C'est une couleur qui porte bonheur pour les Asiatiques.
Tout ce qui est traditionnel pour faire prière le soir, après le premier, là, c'est faut choisir les signes pour la première personne qui rentre dans la maison. Quoi. Ça porte chance toute l'année.
On fait les prières aussi, c'est important. Les prières, c'est pour les ancêtres, pour le passage, eux, ils viennent viennent ici. Et pour les enfants, on donne des enveloppes rouges pour leur porter chance. Souvent, on porte beaucoup de rouge parce que ça porte bonheur.
Le ménage, d'habitude, qu'on a fait, mais là, on renforce un peu pour voir si les coins, il n'y a pas des toits d'araignée, ou on nettoie un peu plus, quoi. Enfin, selon ta tradition, il ne faut pas laisser les toits d'araignée dans les coins parce que comme si il y a des mauvais présages qui nichent quelque part. Donc, il faut les enlever.
Des propos recueillis par Kélinda Boiscou. Notez que nous avons parlé de ces traditions hier dans notre journal avec le président de la communauté chinoise Michel Fong et le président de l'amicale vietnamienne Patrick Guillon qui ont souhaité, dans leur langue d'origine, une bonne année aux Calédoniens.
Toute une nouvelle année, une saison de renouveau. Donc le Tet est une saison où nous portons nos espérances pour l'année à venir. Et même si nous traversons une année assez difficile, même si nous traversons des moments difficiles, pendant cette période, nous nous tournons vers l'avenir.
Traditionnellement, lorsque les Asiatiques fêtent le jour de l'an, c'est une...
Voilà, ce soir, nous entendrons dans leur langue d'origine Patrick Guillon et Michel Fong souhaiter une bonne année aux Calédoniens.
RRB, il est 11h41.
Une nouvelle formule pour la tenue commune 2025. Après de nombreux problèmes de livraison l'an dernier, la province sud souhaite mettre toutes les chances de son côté et bien démarrer l'année scolaire, Léana Colombo.
Et oui, on se souvient tous de la succession de problèmes rencontrés l'année dernière par l'entreprise IPC en charge des tenues communes. Il y avait d'abord eu un retard de livraison contraignant les enfants des écoles publiques du primaire à venir avec leurs propres habits. Puis durant les premiers jours des émeutes de mai 2024, le local du prestataire situé en face de Magenta Tour était parti en fumée, réduisant la totalité de son stock en cendres. Les tenues sont désormais stockées dans un entrepôt à Ducos et cette année pour 5 250 francs au lieu de 5 800 l'année dernière. Les enfants auront désormais 4 t-shirts, un polo, un chapeau et une polaire. Alice, maman de 2 enfants, s'est rendue directement à Ducos pour acheter ses fameux kits.
J'achète pour mes 2 enfants, pour la grande qui fait la rentrée au collège de Boulary et pour le petit qui fait sa rentrée en école maternelle. Je trouve ça bien déjà qu'il y ait des t-shirts par rapport aux polos d'avant. Ils auront moins chaud. Et puis voilà, il y avait des chapeaux aussi l'année dernière. Et voilà, je trouve ça très bien de toute façon faire les tenues communes depuis qu'ils ont mis ça en place. Moi, je suis pour et je trouve ça top. Chaque année, je m'y prends toujours un peu au dernier moment et c'est des files d'attente pas possibles. Donc là, cette année, j'ai dit allez, on anticipe un petit peu avant la rentrée. On y va avant qu'il y ait plein de monde.
Il est possible de venir directement acheter la tenue commune dans les locaux d'IPC au 40 rue de Papeete à Ducos ou en réservant en ligne sur le site internet tenue-commune.nc. 17 000 enfants sont concernés par cette tenue obligatoire et malgré les coupes budgétaires que la province a dû réaliser pour son budget 2025, elle n'a pas souhaité faire l'impasse sur cette mesure, explique Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud.
C'est une décision qu'on a prise juste après les exactions, c'est-à-dire que quasiment tout au début, le magasin des tenues communes a été entièrement détruit et on a décidé de relancer ce dispositif parce que les raisons pour lesquelles on l'a mis en place en 2017 sont toujours existantes aujourd'hui, c'est-à-dire le besoin du sentiment d'appartenance des élèves quand ils ont la même tenue, le conditionnement. Quand l'élève met son t-shirt le matin, c'est pas le même qu'il met pour aller à la plage le week-end, pour atténuer les inégalités sociales et puis surtout pour les parents, avoir une tenue à l'année qui soit très abordable, qui défie toute la concurrence. Et ça, pour nous, c'est important. Donc, on a souhaité le remettre. Et il faut savoir que la province participe, hein, puisque pour chaque kit, les familles payent quasiment que la moitié du prix du kit et l'autre moitié est financée par la province.
Dernière nouveauté, le nom de l'établissement ne figure plus sur les habits. Seul reste le logo de la province sud. Une façon d'économiser un peu plus sur les coûts de production, mais aussi de faciliter la réutilisation des habits pour les enfants, à condition qu'ils restent dans la même commune.
Il sera 11h45 dans quelques secondes. On va marquer une première pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Des dizaines de dirigeants du monde entier se sont retrouvés à Auschwitz, en Pologne, pour commémorer le 80e anniversaire de la libération du camp. camp de concentration et d'extermination dans lequel périrent plus d'un million de Juifs alors que la Shoah a fait 6 millions de victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale. En France, cet anniversaire a donné lieu à une cérémonie au mémorial de la Shoah à Paris. Certains anciens déportés revenus des camps de la mort y ont assisté. Parmi eux, Esther, 97 ans aujourd'hui, déportée à Auschwitz alors qu'elle avait 15 ans.
Je me suis retrouvé à Drancy. Alors là, c'était le 25 août 1943. Et j'ai tout de suite été désigné pour faire partie du prochain transport qui devait quitter Paris, soi-disant pour aller travailler en Allemagne. Alors on était un peu sceptiques parce que dans le camp, il y avait des femmes, des enfants. On se disait, qu'est-ce que ces gens-là vont faire dans un camp de travail? Alors les gendarmes, c'était des gendarmes français à Drancy. Alors les gendarmes nous disaient, oh ben vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler. Le soir, ce sera un regroupement familial.
À aucun moment, on se dit... Il va nous arriver quelque chose
absolument
de terrible.
Pas. Jamais. Même à Drancy. Hein. Donc, on nous a envoyé sur la gare de Bobigny. Et là, il y avait un train avec des centaines de wagons à bestiaux.
Et lors de cette journée de commémoration, de nombreux rescapés ont mis en garde contre une résurgence de l'antisémitisme. La mort d'Elias n'en finit pas d'interroger sur la violence des jeunes. Ce garçon de 14 ans a été poignardé à mort par deux autres adolescents âgés de 16 et 17 ans parce qu'il refusait de leur donner son téléphone portable. Lors de leur garde à vue, l'un des deux a avoué être l'auteur du coup mortel. Ils ont tous les deux été mis en examen et placés en détention provisoire. La mort d'Elias provoque de nombreuses réactions de tristesse mais aussi de colère, notamment dans son collège du 14e arrondissement de Paris. Le reportage d'Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
8h30 devant le collège lycée Montaigne, les premiers élèves entrent en silence dans l'établissement, visage fermé, l'air grave. Certains ont des bouquets de fleurs à la main qu'ils déposent devant l'école. Difficile de réaliser, comme l'explique cet élève de 5e, qu'ils ne reverront plus Elias.
C'est bizarre de se dire qu'il ne reviendra plus alors qu'on le voyait tous les jours. Du coup, le sentiment que quelqu'un est mort, tout simplement, c'est bizarre de ne plus revoir la personne. Je le voyais, je lui parlais, voilà. On peut dire qu'il était timide, discret. Il ne parlait pas beaucoup.
Quelques mètres plus loin, Elliot, élève de 6e, est lui partagé entre inquiétude et tristesse.
C'est dur pour les parents, et ça doit être triste. Moi, j'étais un peu choquée et j'ai plus trop envie de sortir. J'ai envie de rentrer chez moi vite et plus trop envie de rester dehors. Parce que vu les choses qui arrivent en ce moment...
Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être n'importe qui, m'a confié aussi cet élève. Et dans ce contexte pesant, une cellule psychologique va rester ouverte cette semaine dans l'établissement.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a réagi sur Europe 1 à ce terrible fait divers. Il y a un droit en France au premier tabassage, a-t-il déploré. De son côté, le ministre de la Justice ne peut que constater le dysfonctionnement puisque les deux adolescents incriminés étaient connus des services de police. Gérald Darmanin sur TF1.
Quand il y a la mort d'un enfant et que la justice et la police connaissaient les personnes, il y a évidemment largement à se rendre compte que notre système ne va pas. Donc il faut changer les choses. Il faut la comparution immédiate. Aujourd'hui, il y a 140 000 mineurs suivis. Et il n'y a que 650 places en centre éducatif fermé. Et il n'y a que 500 juges pour ces 140 000 mineurs suivis. Donc il faut aussi renforcer les moyens. Et c'est pour ça qu'il y a 100 magistrats de plus qui vont arriver d'ici 2027 pour les mineurs, dont 50 juges pour enfants qui vont être désignés dans les prochaines semaines. On va multiplier les lieux qui sont à la fois des lieux d'éducation, mais aussi privatifs de liberté. Et surtout, il faut que la sanction soit là dès la première faute. Quand on fait de l'éducation, c'est au premier moment de la punition qu'on est le plus entendu. C'est pas 6 mois après, 8 mois après.
La réaction du ministre de la Justice, qui a annoncé aussi lors de cette interview que le parquet national anticriminalité organisé serait lancé le 1er janvier 2026. Le Premier ministre, lui, était sur le plateau de LCI. François Bayrou a dit soutenir la proposition de loi sur la justice des mineurs déposée par l'un de ses prédécesseurs, Gabriel Attal. Elle sera étudiée d'ici la fin de la semaine au Parlement et la mesure phare est la possibilité pour les mineurs de 16 ou 17 ans d'être jugés en comparution immédiate. François Bayrou s'est aussi exprimé sur la préparation du budget qui accapare son gouvernement. Le Premier ministre a assuré que son gouvernement comptait bien agir au-delà des textes budgétaires.
J'ai décrit l'urgence dans laquelle nous étions. On n'a pas de budget, on n'a pas de majorité. Il est vital pour le pays qu'on ait un budget et qu'il soit adopté. Nous ne pouvons pas baisser les bras et nous trouver dans une situation où nous constatons la gravité des problèmes du pays et où nous attendons pour les régler. Et la détermination qui est la nôtre, qui est celle du gouvernement et la mienne, c'est qu'une fois le budget adopté, alors nous allons partir à l'assaut sans exception, de tous les problèmes que nous identifions et qui font aujourd'hui l'extrême difficulté du pays.
En attendant, sans doute cette absence de budget est l'une des raisons qui peut expliquer que le chômage est reparti à la hausse, plus 3,9% au quatrième trimestre 2024. Barthélémy Philippe.
Cette fois, on y est. Le retournement du marché de l'emploi annoncé de longue date par les instituts économiques a probablement commencé. Il n'y a pas de hasard. Si le nombre de chômeurs remonte, c'est d'abord parce que la croissance est très faible, mais surtout parce que les entreprises sont déboussolées par l'absence de budget et de cap économique clair. Audrey Loye est la présidente du réseau Croissance Plus.
Le chômage qui repart à la hausse, c'est bien dommage, mais c'est vraiment la juste conséquence d'un contexte politique et fiscal qui pèse sur nos entreprises depuis des mois. Les entreprises n'aiment pas l'incertitude. Elles ont besoin d'avoir un cadre réglementaire et fiscal stable.
Même constat pour Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE.
On est dans une espèce de gel économique. La crise met les chefs d'entreprise dans une situation d'instabilité qui bloque tous les recrutements et tous les investissements.
Alors que le taux de chômage atteint 7,4% de la population active, il devrait s'approcher, voire dépasser les 8% en fin d'année, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis fin 2020.
Toujours en métropole, mais en bref, il est tombé 174 mm de pluie à Rennes depuis le début du mois, record absolu. Le département d'Ille-et-Vilaine reste placé en alerte rouge aux crues, alors que plusieurs cours d'eau devraient encore déborder dans les heures qui viennent. Et puis la France remporte le Bocuse d'Or 2025. Ce championnat de la gastronomie était organisé près de Lyon cette année, à Chassieux. À l'issue d'une longue journée des jurés, c'est le Français Paul Marcon qui est sorti grand vainqueur de cette édition. Et il succède à son père Régis Marcon, qui avait été sacré il y a 30 ans. L'équipe de France s'est imposée face à 23 autres pays. C'est le 9e Bocuse d'Or remporté par la France. À l'étranger, le Hamas devrait libérer de nouveaux otages le week-end prochain, conformément à l'accord passé avec Israël. Mais le mouvement terroriste a fait savoir que sur les 26 otages qui restent à libérer d'ici la fin de la trêve, 8 sont déjà décédés. Frédéric Simon pour Europe 1.
Le chiffre correspondait aux estimations des agences de renseignement israéliennes et il est confirmé par le Hamas. Parmi les 26 otages qui n'ont pas encore été libérés et qui devraient l'être au cours de la période de 42 jours de cessez-le-feu qui a débuté il y a un peu plus d'une semaine maintenant, 8 sont morts en captivité. L'organisation islamiste n'a pas donné de nom, mais l'armée israélienne a prévenu les proches de ceux des otages dont le sort suscite le plus d'inquiétude. Le porte-parole de Tsahal a fait part publiquement des vives préoccupations de l'armée concernant les plus jeunes des captifs, les frères Kfir et Ariel Bibas, âgés respectivement de 2 et 5 ans seulement, et leur mère Chiri. L'inquiétude est vive également, étant donné ce que l'on sait des conditions de détention des captifs sur la situation des otages les plus âgés, 3 hommes de plus de 80 ans. Mais la prudence s'impose, aucune indication n'ayant été communiquée par les autorités sur l'état de santé de ces 3 hommes. En outre, parmi les otages libérables au cours des prochaines semaines, certains avaient été grièvement blessés au cours de l'assaut terroriste du 7 octobre 2023. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
11h54 sur Radio Rythme Bleu, la dernière pause de ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et on se retrouvera ensuite pour le magazine citoyen.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Tous les lundis, chez Mobile, doublez vos points Conso Plus. Et ce n'est pas tout, chaque lundi, Mobile offre à un gagnant ses achats en caisse. Ne manquez pas cette chance. Rendez-vous le lundi dans les stations mobiles participantes.
Mobile, energy lives here.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance, choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le sport, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, et de nombreux Calédoniens font une nouvelle fois partie de la liste ministérielle des sportifs de haut niveau. On détaille ça avec vous, Léo Fichou.
Et oui, une nouvelle fois, effectivement, une centaine d'athlètes calédoniens font partie de cette liste qui est annoncée par le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. On retrouve notamment Yolène Yengo, Maxime Grousset, Pierre Ferbank chez les élites, Antoine Olivier et Loan Ville chez les espoirs, ou encore Phoebe Rocher qui cette année monte dans la catégorie relève. La kitesurfeuse était fière de découvrir ce changement.
c'est la troisième année où je suis listée sportive de haut niveau. Et cette année, j'ai monté de catégorie. Maintenant, je suis dans la catégorie relève parce que j'ai pu atteindre le top 1 mondial. Donc déjà, je suis super contente d'avoir pu monter un peu. C'est une grande fierté pour moi et je suis très contente d'avoir accompli ça. Ça aide pour Parcoursup. Certaines écoles ont des places réservées aux sportifs de haut niveau. Donc on va pouvoir être sélectionné et on peut aussi avoir un emploi du temps aménagé. Donc on reçoit des subventions du gouvernement. Donc moi, dans mon cas, c'est super pratique pour m'aider pour les voyages, pour aller aux compètes. J'ai prévu d'aller faire une étape de la Coupe du Monde en France, puis au Brésil. Et aussi de faire un stage d'entraînement en Grèce, donc ça va pouvoir financer une partie de ces beaux voyages.
Et nous reviendrons sur cette liste ministérielle des sportifs de haut niveau demain avec Félicia Ballanger. La référente régionale pour l'Agence nationale du sport sera notre invitée du matin.
Un mot de tennis au Brésil pour parler de Maxime Chazal. Le Calédonien s'est en effet qualifié pour le tableau principal du Challenger de Piracicaba.
Après avoir battu le Brésilien Rovéry Sidney en 2-7, 6-0, 6-2 lors du premier tour, le Calédonien s'est imposé ce matin en finale des qualifications face à l'Argentin Kelster Boim. Le score 6-1, 6-2. La nuit prochaine, Maxime Chazal affrontera donc le Bolivien Hugo Delien au premier tour du tableau principal de ce tournoi sur terre battue. Le Calédonien ne part pas favori puisqu'il est 338e au classement ATP alors que son adversaire pointe lui à la 122e place.
Une nouvelle académie de foot en Calédonie. La Fédération calédonienne de football a signé une convention avec la DEC et le Collège Sainte-Marie de Païta. Collaboration qui marque donc la création d'une nouvelle académie de football filles et garçons pour les 13-15 ans. Une initiative qui vise à allier l'excellence sportive et la réussite scolaire pour les jeunes talents calédoniens. On termine avec le sport sur la scène nationale et internationale et du handball. Les premiers quarts de finale demain matin du championnat du monde.
Après son parcours sans faute lors des phases de poule, l'équipe de France sera opposée à l'Égypte, un adversaire que les Bleus connaissent bien. Ils avaient fait match nul 26-26 lors de la troisième journée des Jeux Olympiques l'été dernier à Paris. Avant ça, les joueurs de Guillaume Gilles restaient sur 11 victoires consécutives face aux Égyptiens. Coup d'envoi de ce quart de finale entre la France et l'Égypte demain matin à 7h pour nous. On suivra également dès 4h un duel entre la Croatie et la Hongrie.
11h58, la fin de ce journal.